17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Merci de nous retrouver dans ce grand témoin spécial en compagnie de Nora Chedad. Bonjour Nora.
Bonjour.
Vous êtes espace franco-berbère Azoul de Créteil, une association maintenant qui a quel âge ?
Voilà, plus de 20 ans on va dire. Plus ça ne nous rajeunit pas mais...
Et qui embrasse à peu près tous les aspects de la vie culturelle algérienne, berbère, nord-africaine.
Et Kabyle.
Et Kabyle, en particulier. La mode, la gastronomie.
Oui, la culture, la médiation familiale, le droit, la citoyenneté et un lien avec l'Afrique du Nord.
Et puis Sabrina Abchiche, bonjour Sabrina.
Bonjour.
L'association des jeunes Kabyles de France, qui est une association qui a rejoint un collectif récemment, qui va organiser une grande marche, on va en parler dans un instant, au sein d'un collectif, alors qui se mobilise, c'est presque un SOS Kabylie aujourd'hui, c'est qui on a vu tout récemment l'Algérie et la Kabylie en particulier être vouée à la fois au désastre du Covid-19. On a vu, vous allez nous parler dans un instant de l'élan de solidarité qu'il y a eu et ce que vous avez fait. Et puis aussi des incendies. Et aujourd'hui, une région meurtrie. Alors on va mettre un coup de projecteur sur cette région parce que c'est la région qui a été le plus touchée, la plus meurtrie, mais d'autres régions ont été touchées. On va pas les oublier. Et puis on va pas oublier aussi surtout que d'autres gens des régions d'Algérie sont venus aussi aider la Kabylie, donc on les salue aussi au passage. Et puis c'est ce désastre, ces incendies meurtriers qui ont été dans toute la Méditerranée. On a aussi une pensée pour la Grèce, une pensée pour la Turquie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de lancer un SOS Kabylie, puisque le dimanche 10 octobre, une grande marche est organisée à Paris, du Champ de Mars à l'Assemblée nationale. Vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce trajet. Et tout d'abord, quelle est la nature de ce collectif et pourquoi avoir voulu monter un collectif pour appeler à une marche? Quelle est la démarche?
En fait, on a tous été au départ très sensibles à ce qui s'est passé cet été. On a connu le printemps noir. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est un été noir avec la crise sanitaire. Donc, vous l'avez bien dit, qui a été particulièrement violente en Algérie avec les professionnels de santé qui ont crié et appelé au secours. La diaspora s'est magnifiquement bien organisée en mettant en place des collectes, elle a acheté des concentrateurs d'oxygène, elle les a envoyés, et puis là, on ne comprend pas pourquoi, contrairement à nos amis tunisiens qui n'ont pas eu de soucis au mois de juillet à envoyer de l'aide sanitaire, pourquoi est-ce que nous, pour l'Algérie, ça a été particulièrement compliqué?
Je sais que vous avez été beaucoup impliqué dans la solidarité, comme Nora d'ailleurs, comme des dizaines d'associations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que vous avez fait et puis à quelles problématiques vous avez été confrontés, notamment dans l'acheminement de l'aide que vous avez bien voulu constituer?
Alors déjà, pour continuer sur les concentrateurs d'oxygène, à un moment donné, ils ont été bloqués à la douane avec un communiqué de l'ambassadeur d'Algérie en France qui a expliqué qu'il ne travaillait pas pour une région bien précise et donc que les dons ne seraient orientés.
Mais l'ambassade a fait marche arrière. Elle a fait un deuxième communiqué.
Parce qu'il y a eu un soulèvement, c'était quelque part une injustice. Qu'on oriente des fonds publics, on l'entend, qu'on oriente des fonds privés, ça ne s'entend pas.
Devant le tollé général que ce communiqué avait suscité, ils ont fait marche arrière, ils ont dit finalement, toutes les associations ou la société civile peut emmener un petit peu ce qu'elle veut.
C'est ça, parce que rien ni personne ne peut nous empêcher de faire un don à une personne ou à une région en particulier. Après ce qui s'est passé sur les incendies, ça a été un petit peu plus compliqué parce que la démarche était longue. Au départ, on nous a dit que il était facile d'envoyer des dons si le destinataire était la pharmacie centrale. Donc là, on n'avait pas de souci. Air Algérie nous mettait à disposition des avions gratuitement. On n'avait aucune démarche administrative à faire. Tout était fluide. En revanche, si on ne passait pas par la pharmacie centrale, là, la démarche était quand même un peu plus complexe, où il fallait identifier une association locale qui, elle, devait aller au ministère de l'Industrie pharmaceutique pour retirer un dossier avec des documents administratifs. Nous aussi, on devait envoyer les documents administratifs de l'association, faire l'inventaire de tous nos médicaments. Et ça, c'était un travail particulièrement fastidieux parce qu'il fallait mettre le nom des produits, la quantité, la date de péremption, le nom du laboratoire parce qu'il y a des labos en Algérie qui sont interdits de circulation. Et une fois qu'on avait tout ça, on pouvait envoyer à notre association locale qui allait déposer le dossier complété au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et au bout de 24 heures, on est censé avoir une autorisation. C'est ensuite avec cette autorisation qu'elle allait à l'aéroport ou au port pour dédouaner.
En fait, Sabrina, ce que vous dites, c'est que face à une tragédie sans commune mesure, de façon historique, du point de vue de la pandémie et après des incendies, et avec une mobilisation aussi historique et sans commune mesure de la diaspora algérienne, kabyle et de façon plus générale solidaire, en face de cette mobilisation extraordinaire, elle s'est heurtée à un mur complètement bureaucratique, voilà, qui ça. Était là en train de dire donnez-nous la photocopie de la page 24, voilà. De l'autorisation en double exemplaire, etc. Et pendant ce temps-là, des gens mouraient. C'est ça, Nora? Nora Chedad,
oui,
présidente de l'association berbère Azoul de Créteil.
Voilà, pour reprendre le propos, en effet, c'était ça donne pas envie de rentrer dans cette démarche administrative puisque ça va prendre plus de temps que les besoins d'urgence sur place.
Quelque part, c'est la non-assistance à personne en danger, quoi.
Quelque part, vous l'avez dit, c'est une façon de bloquer encore une fois. Mais la problématique, c'est que une fois que vous avez réussi, après ce grand parcours du combattant, qui, on ne sait pas, ça peut durer une semaine, 15 jours, eh bien, vous n'êtes pas sûr que la totalité de vos dons soit restituée au destinataire, puisque il y a une redistribution encore qui se fait. Alors, il y a des pourcentages, ça peut être 40%, 50%. Des fois, c'est on ne sait pas pourquoi c'est bloqué. Encore une fois, donc. Voilà. Donc c'est, comme vous dites, une autre façon de...
Alors, mais quand même, les hôpitaux, que ce soit de Bouira, de Béjaïa, de Tizi Ouzou, avaient des besoins précis, avaient des interlocuteurs. Est-ce que vous étiez en relation avec le personnel sanitaire, avec tous ces médecins, avec les directeurs d'hôpitaux? Vous aviez des relations avec ces gens-là?
Alors oui, en effet, ils ont pas hésité. D'ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, on avait des listes entières de médicaments, de matériels médicaux, de matériel de pour les grands brûlés. On connaît la problématique des grands brûlés. C'est quelque chose qui se traite sur la durée. Et face à cela, on avait ce problème. Bien sûr, on a l'hôpital de Béjaïa, l'hôpital de Tizi Ouzou, à Bouira, dans les wilaya aussi. Étoile-Tilène, les petits bourgs, mais c'est toujours la même problématique. Comment acheminer et comment être sûr que ça arrive? Donc il y a quand même eu des secours en matériel, mais proportionnellement à l'élan de solidarité, c'est décalé, quoi, en fait. Hein.
Ouais. Effectivement, ceux qui sont passés par la pharmacie centrale ne sont pas sûrs que leurs dons soient arrivés. En revanche, avec la deuxième méthode qu'on a présentée, là, on était sûr que ça arrivait directement.
De cette méthode, parce que vous avez réussi, oui, justement, à pas à passer outre, mais à faire en sorte que vos dons...
On a enjambé la pharmacie centrale.
Comment vous êtes débrouillé?
Comme je vous l'ai dit, donc avec la méthode en passant par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. En revanche, c'est une démarche qui est administrativement longue et c'est surtout quelque chose de coûteux parce qu'il faut payer les transitaires. Oui. Et les fonds, il fallait les avoir. Donc tant mieux parce qu'on a eu beaucoup de dons privés aussi. ce qui nous a permis d'assurer l'acheminement. Donc, en tout cas, pour l'association franco-kabyle de Champigny, qui a récolté plus de 4,5 tonnes de médicaments, ils sont partis et ils sont bien arrivés.
Et justement, 4,5 tonnes, Nora, Sabrina, là, on est maintenant au début octobre. Quel bilan de cette aide ? Est-ce que toute aide est arrivée ? Est-ce qu'il y a encore besoin d'aide ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un mini-bilan ? Parce que j'imagine que les blessures sont profondes et qu'il y a des choses qu'il va falloir faire à moyen terme et à long terme, notamment dans la reconstruction des maisons, dans le repeuplement des troupeaux. Les ruches ont été détruites, les oliviers ont été détruits. Donc, on va en parler dans un instant, mais peut-être un bilan, peut-être de cette aide d'urgence. L'une et l'autre, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan, Nora ?
Alors, pour notre part, à Créteil, on a réussi à ce que la totalité de nos envois soit arrivée. Donc, c'est des dizaines de cartons, des dizaines de matériel de soins, mais avec beaucoup, beaucoup de tracas administratifs et du temps. Voilà, et on a perdu beaucoup de temps. Je pense que les hôpitaux de Kabylie et plus largement d'Algérie sont toujours en souffrance, vu que dernièrement on a appris qu'il y avait des malades, des grands brûlés qui sont partis et qui ont été expédiés en Turquie. Il y a des gens encore qui meurent tous les jours des séquelles de ces grands incendies.
On parle de 300 à 400 morts, c'est le chiffre.
On n'a pas de bilan officiel.
Oui.
C'est ça qui est compliqué.
Mais on a...
Il n'y a pas de bilan officiel.
Officiel, non. On a les remontées des comités de village.
C'est 300-400 morts, mais sans compter les milliers de blessés, de déplacés, voilà. De disparus.
Alors, on s'était arrêté au chiffre de 250, je crois, juste après la semaine des incendies.
Pour des familles entières.
Ah oui, des familles entières, complètement, des bourgs entiers, je veux dire, en termes de territoire. Hein. Et puis après, il y a eu les morts suite aux séquelles. Donc chaque jour, il y a eu plusieurs morts. Donc on peut calculer, là ça va faire presque un mois.
Plus les morts vivants, quoi. Plus ceux qui sont toujours vivants, mais qui sont... Voilà, dont la vie est achevée quelque part.
Ben oui, complètement, parce qu'il y a des amputés, il y a des gens qui sont brûlés au deuxième, troisième degré, donc c'est compliqué, ça prend du temps. Je pense que la région est toujours en souffrance, hein. On peut pas énumérer en termes de quantité, mais on sait qu'ils sont en souffrance vu que ils appellent encore un SOS d'aide humanitaire, on en est là. Et en termes de territoire, c'est une catastrophe écologique. On n'a pas eu de précédent. Je pense que dans la conscience collective de la communauté kabyle, plus largement algérienne, puisque il s'agit de ça aussi, il y aura un avant et un après l'été incendiaire de 2021.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grand témoin aujourd'hui qui est un SOS Kabylie puisque nous recevons Nora Chedad de l'espace franco-berbère Azoul de Créteil et Sabrina Abchiche de l'association des jeunes Kabyles de France qui sont regroupés autour d'un collectif Kabyle de France, une cinquantaine d'associations. Ils vont nous en parler dans un instant, mais on était dans le bilan. Aujourd'hui, apparemment, depuis le 25 août, tout est terminé. Il n'y a plus de possibilité d'envoyer des aides. Et puis, on a retrouvé aussi, dans cette période, de la corruption, du marché noir, des concentrateurs à 2, 3, 4 fois le prix. Mmh. Vous pouvez nous parler un peu de ça ?
Bah, en fait, c'est la règle et la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que, même ici, en France, à un moment donné, comme il y avait une demande exponentielle de concentrateurs, eh bien, les entreprises ont augmenté leurs prix aussi. Et c'est ce qu'on a vécu aussi avec les transitaires. Donc, avec la méthode qu'on a donnée tout à l'heure, au début, les transitaires, c'était un certain prix. Et puis, quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'associations qui arrivaient, à un moment donné, c'était l'occasion aussi d'augmenter les prix. Donc,
on a vu aussi des choses extraordinaires en Algérie, notamment, je pense, à Akbou, où une vingtaine de petits chefs d'entreprise se sont cotisés, je crois, équivalent de 5 000 euros chaque entreprise. Ils ont réuni comme ça 100 000 euros, donc 1,7 milliard en argent algérien. Et ils ont construit carrément un générateur. Ça a été le point de départ d'une d'une prise en main, d'une prise en charge, d'une auto-organisation de la société civile.
Oui, et il y a aussi le président de l'entreprise Soumam qui a acheté et distribué une vingtaine ou une trentaine de concentrateurs d'oxygène. C'est clair, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une solidarité citoyenne qui s'est développée au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau national. Hein. Il y a des caravanes de solidarité qui sont arrivées de toutes les wilayas. De toute façon, humainement parlant, on ne pouvait pas être insensible à ce qui se passait en Kabylie, mais maintenant la question c'est effectivement quel est le bilan. On n'a même pas de bilan officiel de la part de l'État. L'État est encore absent aujourd'hui. Les sinistrés ne sont pas pris en charge, hein. Ils sont encore pris en charge par la solidarité citoyenne. Vous avez encore des salles des fêtes qui sont pleines de sinistrés parce qu'ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de village, ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur maison, leurs effets personnels, leur terre, leur bétail, leurs souvenirs, leur village. Ils ont même perdu leur mort, les cimetières ont brûlé. Donc là, les enfants sont traumatisés, les personnes âgées pour certaines se laissent mourir parce que quand elles n'ont plus rien à quoi se raccrocher dans la vie, eh bien elles se disent qu'il vaut mieux passer de l'autre côté. Donc il y a une souffrance qui est humaine, psychologique, physique, et comme le disait Nora, il y aura un avant et un après. C'est un épisode qui va marquer vraiment les consciences et les esprits.
Et qui a marqué notamment ce qu'on peut appeler la communauté algérienne de France et de l'étranger, notamment la communauté kabyle, puisque on sait que les Kabyles de France, il y a une immigration maintenant, la diaspora a presque 130 ou 140 ans,
c'est
presque
un
siècle et demi,
c'est l'une des premières
très importante. Il n'y a pas une famille kabyle en France qui n'a pas été touchée, donc tout de suite il y a eu un élan du cœur et c'était quasiment irrationnel, c'était un engagement total pour essayer de faire quelque chose.
Bien sûr, complètement, parce que il faut savoir que la communauté kabyle en France est pratiquement la plus ancienne d'Afrique du Nord, on le sait, les historiens peuvent le dire, mais c'est surtout que, génération après génération, le lien affectif et le lien avec cette terre est resté. On a tous dans nos familles un frère, une grand-mère, une grande-tante qui y vit, on a des maisons familiales, on a des terres, on a des neveux, des cousins, donc on est lié à cette terre.
Et c'est vrai qu'en Kabyle, c'est vrai que le même mot désigne à la fois l'Algérie, Tamourt, désigne à la fois la Kabylie, Tamourt, et désigne en même temps le petit lopin de terre qu'on hérite des parents, Tamourt.
Voilà.
Le même mot désigne la terre, la Kabylie, l'Algérie. Donc c'est dire si
c'est
cet attachement est quasiment charnel.
Complètement, c'est un lien fort. Et aujourd'hui, on est obligé, je veux dire, on a eu un impact affectif tellement profond, on a été touchés au plus profond de nous, puisqu'il s'agit de nos familles, on ne peut pas rester insensible. Maintenant, après avoir enterré les morts, après avoir fait le bilan, enfin, des familles, hein, les villageois, il est temps d'exprimer haut et fort notre tristesse et qu'est-ce que vont faire nos élus en France ? Qu'est-ce que vont faire ceux qui nous représentent ? Parce qu'il n'est pas question de rester comme ça. On ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé.
Oui, comme si ça ne s'était pas passé, mais ça se passe toujours. Sabrina vient de rappeler que la reconstruction va prendre du temps, que les choses vont prendre encore de nombreux mois, voire des années. Donc à la fois que les élus ou que les gens ne peuvent pas rester insensibles, mais en même temps que cet éventuel élan de solidarité doit s'inscrire dans l'aide toujours à la reconstruction. Donc,
Il y a ce problème, on va dire, entre guillemets, de cet embargo. Il faut presque parler de ça, puisqu'on a quand même une région qui est isolée, qui est sous un parcours administratif très très fort, et donc il y a un besoin important d'aide. Donc c'est pour ça qu'on a constitué ce collectif, parce que nous ici en France, on a besoin d'interlocuteurs pour que justement cette aide soit acheminée naturellement, normalement, comme toute autre population sur la planète qui vient en aide à une région du monde, et qu'en même temps on ait des issues à l'avenir pour que cette région retrouve un apaisement, retrouve un équilibre. Il s'agit quand même d'un écosystème qui appartient à la planète. C'est une région qui est, il y a la flore, il y a la faune, il y a les mers, il y a les arbres, il y a tout ça, il y a les abeilles, et les gens vivent de cette terre. Donc c'est aussi un désastre économique pour les familles. Il y a un désastre psychologique. Combien de temps ils vont mettre pour s'en remettre?
Alors, ce collectif, alors racontez-nous comment il s'est constitué et qui est représenté dans ce collectif et quelles sont ses actions à venir. Donc, il y en a une qui arrive, mais est-ce qu'il y a d'autres actions?
Alors, ce collectif, il est né suite à cet été et finalement à l'indignation parce que c'est une situation qui n'est pas habituelle, c'est-à-dire que c'est pas une catastrophe naturelle. Classique, là déjà on nous dit que ce serait des feux meurtriers, hein, criminels, hein, ça a été l'annonce du gouvernement. Donc déjà la question qui a brûlé la Kabylie. Donc nous on aimerait quand même qu'il y ait une enquête internationale et qu'il y ait des observateurs étrangers qui puissent répondre à cette question.
Ce que vous racontez là, c'est qu'il y a eu des départs de feu simultanés.
C'est ça.
Au même moment, c'est dans ça. Différents endroits, et c'est ça qui est suspect.
Ce qui serait naturellement impossible, la section d'intervention des feux de forêt, ou encore les marins pompiers de Marseille, vous disent que c'est naturellement difficilement possible. Alors là, on est sur des suppositions. Ils ne sont pas sur place. Ils étaient en contact avec les gardes forêts, mais il faut une enquête internationale. Et nous, à travers ce collectif, et pour cette marche aussi du 10 octobre, ça fait partie de nos revendications. Et il y a une indignation parce que c'est aussi un État qui n'a pas réagi, un État qui a laissé une partie de son peuple brûler. Il a refusé l'aide internationale, donc faut se mettre à la place des gens. Ils sont en train de brûler, ils ont les réseaux sociaux, ils savent très bien ce qui se passe. Ils voient que la France veut intervenir, l'Espagne veut intervenir, la Suisse veut intervenir, le Maroc, et là on a un président qui dit non, tout va bien, tout est sous contrôle, laissez-les brûler, ça leur fera pas de mal. C'est violent pour les gens, c'est violent, c'est pas juste comme si on subissait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une catastrophe naturelle, sans vouloir hiérarchiser les souffrances, en Turquie ou en Grèce. Là, vraiment, on a voulu nous tuer, et en plus, on a un État qui ne nous a pas protégés. Et au-delà de ne pas avoir été présent pendant les feux, il ne l'est pas après non plus, puisque comme on le disait, les sinistrés sont encore à la charge de la solidarité citoyenne. Donc nous, on veut dire non. Et là, on veut dire non et stop, parce que la Kabylie n'a même pas encore fini de pleurer ses pertes, que là, a subi un acharnement. Il y a des régions, il y a des localités qui sont restées sans eau dans des robinets pendant plus de 20 jours. Pendant plus de 20 jours. C'est inhumain. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Hein. Ailleurs, il y en a de l'eau qui sort des robinets. Il suffit juste de débloquer. Donc ça, il y a vraiment quelque part aussi une répression. Là, aujourd'hui, on est encore sur des arrestations. Là, les gens, ils sont encore fatigués des feux parce que les jeunes, ils ont été là à faire face au feu avec des branches. Eh bien, là, ils subissent des intimidations, des provocations, de la violence. Là, on pourra en parler. Mais nous, en tout cas, l'objectif du collectif et de cette marche du 10 octobre devant le Champ de Mars, c'est de dire non et d'interpeller les pouvoirs français sur ce que vit la Kabylie actuellement.
Nora, une cinquantaine d'associations dans le collectif? C'est ça?
On n'a pas chiffré parce que il y a eu déjà une réunion préliminaire il n'y a pas beaucoup de temps. Beaucoup de représentations des provinces de France. Toute la France était représentée.
On n'est pas obligé d'être kabyle pour être dans ce collectif.
Non, complètement.
Ça peut être aussi des associations françaises,
complètement.
Internationales.
Les amis de la Kabylie. C'est un territoire qui appartient à la planète. Voilà, donc déjà dans cet aspect écologique, tout le monde est concerné. Et en même temps, je pense que même que ça part à l'international, parce que il y a les Kabyles de New York et les Algériens de New York qui vont se manifester, à Montréal également, et puis d'autres endroits dans le monde. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce qui s'est passé cet été restera quand même dans nos mémoires. Et comment appréhender les semaines à venir? Quelles seront les solutions? Va-t-on aller vers quelque chose d'apaisant? Que vont faire nos élus pour trouver, avec le pouvoir d'Alger, il faut le dire, hein, faut trouver des solutions, parce qu'on est on est là pour ça. Nous, on est une association, on travaille au quotidien pour le vivre ensemble, pour la citoyenneté, pour la diversité culturelle. Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin. C'est nous qui avons besoin de cette aide.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, invité aujourd'hui dans les grands témoins, invité la Kabylie qui appelle au secours et qui lance un SOS au travers un collectif d'une cinquantaine d'associations qui appelle à une manifestation, à un défilé, le dimanche 10 octobre 2021. Nora, Sabrina, il y a eu une aide, il y a eu des gens qui ont donné de l'argent. Je pense notamment à Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a donné, je crois, autour de 30 000 euros. Je pense à la mairie d'Aubervilliers, qui a donné à peu près 50 000 euros. Il y a eu, par exemple, la ville de Champigny, où Sabrina est élue, 4 000 euros. Cet argent, il va où? Quelle est la traçabilité? Quelle est la transparence? Quelle est la visibilité de cette aide qui est donnée? Elle est versée à qui? Ça va où? Si vous pouvez nous répondre là-dessus.
Mais là encore, c'est compliqué de monter des projets citoyens, culturels, écologiques. Pourtant, nous, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir créer des passerelles entre la France et la Kabylie en particulier. Il y a une loi en Algérie qui est la loi du 12 juin 2012 qui interdit toute association algérienne de recevoir des fonds de l'étranger. Nous, au départ, on s'était tous dit, on va envoyer à des comités de village, on va repérer les localités sinistrées pour leur envoyer les fonds directement. Donc c'est bien évidemment impossible, sans quoi elles vont avoir des peines judiciaires. Du coup, on a été obligés de donner à des associations de France qui vont mener des actions en direction de la Kabylie. Mais c'est dommage parce que nous, on aurait aimé pouvoir donner directement aux sinistrés, avoir un contact direct sans avoir à passer par des intermédiaires. Et c'est vrai que ça peut parfois démotiver parce que la seule association qui est habilitée en Algérie à recevoir des fonds étrangers, c'est le Croissant Rouge. Le problème, c'est que les personnes de terrain vous disent on ne voit pas le Croissant Rouge. L'ONU a donné 80 000 euros au Croissant Rouge et malheureusement, là, on sonde les comités de village, ils nous disent on ne le voit pas cet argent, on ne sait pas qui a vu cet argent. Donc ça manque de transparence aussi. Alors on sait que le Croissant Rouge est aussi une organisation qui est chapeauté par l'État. C'est très centralisé au niveau d'Alger, donc on perd du temps. On perd du temps aussi encore. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Alors, racontez-nous ce collectif, cette manifestation. Vous avez décidé d'aller du Champ de Mars à l'Assemblée nationale. Pourquoi à l'Assemblée nationale?
Alors, justement, régulièrement, il y a des rassemblements autour de l'Algérie, la Kabylie, à Paris. Et on voulait justement se démarquer des trajets habituels qui sont République, Bastille, La Nation, etc. pour exprimer déjà que nous sommes les associations de France. Donc, et puis on s'adresse à nos élus. Donc l'Assemblée nationale, c'est la maison des députés, donc c'est l'Assemblée, c'est le lieu des lois, etc. Donc on s'adresse à ceux qui nous représentent. Et voilà, donc
c'est cette capacité de dire à la fois nous sommes Algériens, nous sommes Français, nous sommes binationaux. L'Algérie aussi nous intéresse comme par exemple un jeune Antillais ou un jeune Portugais ou un jeune d'une autre nationalité qui serait binational. Et rien de ce qui touche l'Algérie ne nous est étranger et vice-versa. C'est ça que vous voulez, puisqu'aujourd'hui, entre guillemets, il y a une politique des diasporas, puisqu'aujourd'hui même il y a des grands rassemblements autour des diasporas africaines qui s'organisent aujourd'hui. Il y a un sommet africain le 8 octobre. Avec les diasporas. Donc la diaspora kabyle, je dirais, est en droit d'interpeller les élus de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas faire ingérence.
Bien sûr, complètement. Nous sommes les enfants de cette terre. Même si ça fait 4-5 générations, le lien reste fort. Je ne connais pas autour de moi d'enfants originaires de Kabylie qui ne va pas, enfin, la génération...
Abdelmalek Sayad, le célèbre philosophe, disait que nous sommes les enfants légitimes d'un couple illégitime.
Donc, voilà,
en fait,
il a bien résumé.
Une légitimité totale à réclamer ses droits.
Bien évidemment, il a bien résumé, et d'autant plus que nos enfants, qui sont encore la cinquième voire la sixième génération, sont encore liés à cette terre, puisque ils y vont en vacances. Il y a la maison familiale, on a l'huile d'olive qui arrive de nos terres, on a la grand-mère, la grande-tante qui nous parle en kabyle. Voilà, on a un lien affectif très fort et on peut pas rester insensible à cette tragédie. Et nos interlocuteurs, nous vivons en France, nos interlocuteurs, ce sont nos maires, nos sénateurs, nos députés, notre président de la République, les ministres, le ministère des Affaires étrangères. Voilà, ce sont eux.
Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous voulez leur demander?
En tout cas, pour ma part, je veux qu'il y ait vraiment un dialogue. Parce qu'on voit bien que on voit bien qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Nous, on demande un dialogue pour arriver à de l'apaisement, pour qu'il y ait des solutions qui sortent de ce dialogue.
On va vous dire, l'État algérien est souverain, c'est de l'ingérence, voilà, on va vous avancer ces arguments traditionnels.
Oui, c'est bien sûr qu'on va nous avancer, mais en attendant, les situations, elles sont là. On peut pas faire comme si on ne vit pas une tragédie.
Donc et l'État français ne peut plus cautionner ça. C'est-à-dire que il se passe un drame sous nos yeux, tout le monde regarde et personne ne dit rien parce que l'Algérie est souveraine. Mais ce que fait l'Algérie n'est pas légal. L'Algérie, elle ne respecte pas les droits de l'homme. C'est pas normal ce qu'elle fait. Quand on arrête la coprésidente du Congrès mondial à Mazir, quand on la kidnappe, on n'a pas de nouvelles d'elle pendant 8 jours. On ne lui a pas fait part de ses droits. Et que ensuite elle est accusée, elle a des chefs d'accusation qui sont très très graves. Elle a été en mandat de dépôt. Enfin c'est pas normal, on n'a pas le droit de faire ça. La Kabylie a subi des provocations quotidiennes. Quand vous avez une voiture de gendarmerie qui arrive en territoire kabyle au cœur de Erkvou avec des gendarmes qui montent sur un emblème pour retirer le drapeau amazigh, c'est une provocation. Quand on exclut de la langue berbère de l'emploi du temps officiel des élèves, c'est une provocation. Donc nous, ce qu'on veut, là, à un moment donné, c'est dire stop. On veut interpeller sur la Kabylie, on veut mettre un coup de projecteur sur ce qui se passe en Kabylie, parce que c'est des injustices au quotidien. Et il faut, à un moment donné, que tout le monde prenne part. On peut plus rester silencieux. On ne peut plus cautionner ça. Donc nous, on dit stop. On veut que l'Algérie respecte les droits de l'homme. On veut que l'Algérie, elle, libère tous les détenus d'opinion et politique. Vous avez encore des avocats qui ont été arrêtés il y a 2 jours. Vous avez des écrivains. Vous avez des enseignants. Ça va aller jusqu'où? Ça veut dire que demain, si je dis je suis kabyle, on va m'arrêter?
Il faut aussi parler de ces milliers de familles et de jeunes qui prennent des embarcations de fortune et qui traversent la Méditerranée. Il y a eu récemment, en 2 jours, en 48 heures, 1500 personnes qui sont arrivées sur les côtes espagnoles. Et nous, ici, à Créteil, on a reçu des jeunes qui sont arrivés dans ces embarcations. C'est la première fois qu'on voit ça, quoi. C'est choquant. Ils ont tout laissé. Ce sont des gens qui ont des maisons, qui ont des terres, qui ont un travail. Ils ont tout abandonné. Une partie est partie dans la mer. Il y en a qui sont morts. Ils ont laissé leurs copains tomber dans l'eau. Ou alors, ils ont été mitraillés. On nous a dit qu'il y en avait qui avaient reçu des balles par les gardes-côtes d'Algérie. Donc nous, vivant en France, quand on a des gens qui arrivent comme ça, on est choqués. On est choqués. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut que alerter nos élus.
Donc, c'est-à-dire que l'Algérie est devenue un pays comme un autre, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, ses tortionnaires, sa tyrannie. Voilà, c'est plus ce pays, cet Eldorado révolutionnaire qu'on a vanté pendant des années. Donc, c'est devenu un pays comme un autre. Il a le droit d'être critiqué. Il a le droit d'être pointé du doigt. Ce n'est pas faire de l'ingérence que de pointer du doigt ce qui ne va pas. Et finalement, qui aime bien châtie bien, donc si vous n'étiez pas attaché à cette terre, à cette Kabylie, vous ne seriez pas là. Donc comment ça va se passer cette journée du 10 octobre?
Eh bien là, comme vous l'a dit Nora, on n'est pas parti sur un parcours classique Bastille-République. Là maintenant, on passe du côté ouest de Paris. On veut interpeller les institutions. Alors vous me direz, le dimanche, ils sont pas là. Ils sont là le mercredi, les députés, sauf que le mercredi, on travaille tous. Donc c'est compliqué d'organiser une marche la semaine. Mais on espère vraiment avoir énormément de monde parce que c'est le moment. Et croyez-moi, même s'ils ne sont pas dans les locaux de l'Assemblée nationale, ils seront à la seconde même quand ils verront 20, 30, 50 000 personnes devant avec des drapeaux. Ils sauront tout de suite que voilà, il y a des revendications. Et nous, ce qu'on espère après cette marche, c'est que des membres du collectif en délégation puissent être reçus par les institutions publiques, par des responsables publics.
Est-ce que vous avez contacté des ONG, des partis politiques français, des syndicats? Est-ce que vous avez...
Oui, il est prévu qu'un courrier parte en direction de nos élus, de nos maires déjà, et puis des ministres, des députés, le ministère. C'est prévu. Alors, ce que je sais de la marche, c'est qu'il va y avoir affrété des bus qui vont venir de Saint-Étienne, de Marseille, la Bretagne, la Normandie, même la Suisse. Voilà, donc il y a vraiment un élan de solidarité pour cette marche, apolitique, il faut le souligner, c'est-à-dire que là, c'est tous ceux qui sont amoureux de la Kabylie et qui sont soucieux du patrimoine écologique, les amis de la Kabylie, et voilà, et les Français d'origine kabyle et les non-kabyles, on est tous, enfin c'est comme si qu'il y avait une tragédie dans l'autre côté du monde et qu'on y va, parce que ça nous touche, on est des humains, c'est un geste humanitaire.
Sauf que là, on est dans le bassin méditerranéen, on est à une heure de la France. Et c'est vraiment une marche qu'on veut citoyenne, on la veut familiale, les femmes peuvent venir, les enfants, les personnes âgées, voilà, c'est-à-dire qu'il y a la société civile, les élus, les ONG, les syndicats, tout le monde, les militants, tout le monde main dans la main marche pour la Kabylie. Vraiment, donc, là, il faut...
Donc à la clé, une indignation profonde, un sentiment d'injustice, vouloir essayer d'interpeller en tout cas
l'espace
politique, instaurer un dialogue.
Un dialogue, des solutions.
Parce que finalement, l'État algérien, le pouvoir algérien doit pouvoir aussi dialoguer.
Donc, des solutions.
Aussi, cette marche peut aussi être quelque part une main tendue en disant voilà, nous sommes là, voilà. Et on a envie,
on a envie d'apaisement. L'apaisement, les solutions, et puis on n'est pas là pour passer en justice qui que ce soit, on est là pour dire il faut que cette région retrouve son équilibre, il faut que cette population retrouve un semblant de vivre tranquille, parce que quand il y a la répression en Kabylie, c'est la répression de nos familles. On a tous un cousin qui habite dans ces villages, donc on n'est pas tranquille.
Encore une fois, donc un appel à la solidarité, une manifestation paisible, neutre, qui n'est pas instrumentalisée par aucun parti politique, indépendante. Écoutez, merci d'être venu nous parler de cette manifestation et de cet événement qui, on va voir un petit peu comment ça va se passer en tout cas. Nora Chedad, merci d'être venu. Vous êtes présidente de l'espace franco-berbère Azoul de Créteil. À très bientôt. Et puis, Sabrina Abchiche, l'association des jeunes kabyles de France et élue de Champigny en région parisienne. Merci d'être venu et merci. Bon courage pour la marche.
Sahet Stenmert et Yem Krela Didwoneug la marche.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.